Oli, les Instrus, les Odyssées, Salut l'Info, les aventures de Tintin, plus de 3500 podcasts pour tous les enfants. Une offre de loisirs 100% gratuite et 100% sans écran à retrouver sur radiofrance.fr et sur l'appli Radio France.
Avec Radio France, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Bonjour Nagui.
Bonjour Ali. Aujourd'hui, nous allons en prison avec Mélanie Bernier et Max Boublil dans Neuilly-Poissy.
Bonne émission, il est 11h20 à l'écoute de France Inter. Les dernières informations avec Laetitia Gaillet.
Judith Godrèche le réclamait. Il y aura bien une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. L'Assemblée nationale a donné son feu vert ce matin à l'unanimité des présents et ça concernera aussi l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité. La commission d'enquête devra évaluer la situation des mineurs mais aussi des adultes. Elle devra identifier les mécanismes et les défaillances qui conduisent à ces abus. Le but étant d'établir les responsabilités de chacun des acteurs et d'émettre des recommandations. Carla Bruni est entendue ce matin dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La femme de Nicolas Sarkozy est interrogée en audition libre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2021 pour, entre autres, subornation de témoins, association de malfaiteurs et escroquerie. Ziad Takieddine, ça concerne l'affaire Ziad Takieddine qui accuse Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyens. Les hôpitaux publics parisiens ont de plus en plus recours aux intérimaires, plus 26% pour les 38 établissements au premier trimestre selon nos informations. Ce sont surtout des infirmiers en intérim auxquels on fait appel. Il s'agit de ne pas fermer certains services. Les situations sont disparates puisque dans certains établissements, on en est même à une hausse de 145%. C'est le cas à l'hôpital Beaujon de Clichy dans les Hauts-de-Seine. La PHP assure que cette augmentation est conjoncturelle et que cette tendance va s'inverser dans les semaines qui viennent car l'objectif est de réduire la part intérimaire qui coûte cher à la PHP plusieurs dizaines de millions d'euros en plus dans les budgets. Bruno Le Maire convoquera le patron de la SNCF dans les prochains jours. Le ministre de l'économie et des finances lui demande des comptes après l'accord passé avec les syndicats sur les fins de carrière. Ce n'est pas, selon le patron de Bercy, satisfaisant, c'est même provoquant. Le 22 avril dernier, le patron de Bercy, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont signé un accord, unanimité d'ailleurs rare des syndicats. L'accord prévoit une amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les postes où la pénibilité est avérée. À droite, on dénonce un contournement de la réforme des retraites. Enfin, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, relève ce matin ses prévisions de croissance mondiale, 3,1% contre 2,9%. C'est lié en particulier à la reprise aux États-Unis. Dans la zone euro, la France voit ses prévisions relevées également, légèrement, 0,7% pour 2024 contre 0,6%. Bruno Le Maire, toujours, lui maintient sa croissance française. Elle sera de 1% selon lui cette année. Nous sommes dans la bonne direction, selon le ministre de l'Économie et des Finances. 11h03 sur Inter.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge. Le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
C'est le printemps et donc la saison des délicieuses fraises françaises. Savourez dès maintenant nos gariguettes, ciflorettes, charlottes et autres fraises rondes. Les fraises de France sont uniques en goût. Laissez-vous aller. Spot financé par les producteurs de l'AOP nationale Fraises Framboises de France.
Et c'est la bande originale tout de suite sur France Inter. C'est avec Nagui, allez-vous.
Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Avec Leïla Kadoboudadi, avec Lisa Delmoitié, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, et nos invités Mélanie Bernier et Max Boublil.
Bonjour. Salut.
Bienvenue Mélanie, bienvenue Max.
Merci.
On va parler de votre film qui sortira le 8 mai qui s'appelle Neuilly-Poissy. Mais avant tout ça, un petit blind test. Je sais que vous aimez les jeux,
oui.
vous aimez gagner, vous aimez jouer, vous n'aimez pas
perdre. Vous êtes joueur.
Bref.
Daniel.
Elvis.
Ça a commencé ou pas? Ah, ça a commencé, d'accord. Bah, c'est une émission un peu foutoir, hein, pardon.
Mais moi, je sais qu'avec Leïla et Daniel, je suis sûre de perdre.
Non.
Je joue
à Alors, la règle du jeu,
c'est... Là, c'est encore le blind test. Je comprends pas cette émission. J'ai l'impression que je viens de rentrer dans une secte. Je ne comprends plus.
Ça, c'est la réponse.
C'est pas faux.
C'est la réponse. D'accord.
On laisse dérouler.
Il faut donner son prénom pour prendre la main, ce qui remplace une sorte de buzzer, si vous voulez.
D'accord.
Vous donnez votre prénom.
Ah, il faut que je donne moi-même mon propre prénom.
Si vous en souvenez, oui.
Ah, d'accord.
Après, vous pouvez dire Michel, mais ça marche pas.
Si vous en souvenez, c'est très méchant.
Et ensuite, une fois que la parole vous sera accordée, là, vous donnez la réponse.
D'accord, très bien.
Et là.
Donc, qui chante?
Daniel.
C'est pas les 10 commandements.
Daniel.
ACDC. Non.
Daniel Lévy.
Non plus.
Daniel Lévy.
Non plus.
Ça, c'est un
Daniel
truc,
Morin.
Genre, ça fait film. Moi, je me vois bien.
Daniel Abissera, c'est mon film.
Non.
C'est une bande originale.
J'ai plein de Daniel.
Non, du tout. Écoutez bien.
Et qui d'autre comme Daniel?
Mais c'est pas Daniel, c'est tout.
C'est pas Daniel.
Non. Qu'est-ce qu'il y a
qui chante?
Bah ouais.
Leïla, c'est Johnny, Diego.
Oui.
Ah, je me disais, je connaissais ce truc.
Ah voilà, Diego, Olive, Johnny, bien sûr. C'est l'intro la plus longue de la chanson française.
Il faut préciser, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film qui sortira le 8 mai, que nous sommes dans le milieu carcéral. C'est pour ça qu'il y a eu Jailhouse Rock.
Okay.
Et là, Diego,
il y a un thème, d'accord, autour de ce blind test. C'est très malin
nous
et très fin.
Nous servons la promotion de nos invités. Ouais.
Daniel. Les portes du pénitencier.
Mais Johnny,
c'est encore Jojo.
C'est les portes du pénitencier. C'est Jojo.
Par contre, t'as pas dit ton prénom.
Ouais, non, mais c'est très bizarre de dire son prénom avant que chaque réponse. Max m'oublie, les portes du pénitencier.
Ah, il gueulait quand même.
Il l'a envoyé. Hein.
Ah oui, il l'a envoyé.
Moi.
Après, je suis obligé de vous raconter quand même une petite, petite anecdote.
Vas-y, Père Castor.
Sur Johnny, il a fait un duo avec John Bon Jovi dans Taratata, et pendant les balances, il y avait vraiment la guerre de celui qui allait pousser les vues-mètres le plus loin. Et puis Johnny laisse faire et ainsi de suite. Et juste avant l'émission, je vais le voir dans sa loge et il me dit, il va quand même pas me pousser dans les décibels. Je dis non, mais c'est super duo, tout va bien. Ouais, tout va bien. L'émission démarre et à la fin, mais ils ont tellement poussé tous les deux. Johnny a plié en deux John Bon Jovi et à la fin de l'émission, il est venu me voir et fait « J'ai failli me faire mal ». Mais j'ai adoré ce côté gamin qui veut gagner malgré tout.
Leïla, Trial.
Mais t'as pas dit ton prénom avant.
Si.
Leïla.
Ah mais c'est que tu ne connais pas son prénom.
Si,
mais c'est
si j'avais pas entendu, pardon, j'avais pas entendu.
C'est ça. Il s'appelle Trial.
Prison de Nantes.
La vraie question, c'est combien de bolets avant de connaître ce morceau.
Ouais.
Qui chante ça?
Lisa, oui. Johnny Cash.
Joli.
Oh,
le calme de Lisa.
Ah ouais,
incroyable.
La série
Poker Face, quoi.
Ah ouais.
Tu nous l'as un peu balancé à la gueule, quand même.
For Some Prison Blues.
Saleté, ouais.
Je la connais pas assez, mais j'aurais dit un pourriture si je la connaissais mieux.
Ah ouais, c'est pas mal.
Dans une demi-heure, ça sortira.
Bon, attention, plus pointu.
Daniel.
Ah, je connais.
Renaud.
Non.
Non.
On croyait la musique de Walker Texas Rangers.
C'est
vraiment
ça, ouais.
Attends.
Qui ne s'est jamais laissé enchaîner.
Oh.
Renaud, c'était pas con. Hein.
Hugo Frey. Ouais.
Non.
Carla Bruni.
Non.
Kinvé.
C'est un groupe.
Carla Bruni sans café.
C'est un groupe.
Non, c'est un mec seul. Que vous connaissez tous.
Max Bernard Lavillier.
Non.
Pas loin.
Ah. Tu veux dire qu'il y a du cheveu court, il y a de la boucle d'oreille.
Non, j'entends pas la voix.
Et la moustache.
Il y a de la moustache.
Maxime Le Forestier.
Non.
Je connais cette voix.
Oui. Archi connu.
Vivant, mort.
Malheureusement mort.
Delpech.
Non.
Fuguin, pas du tout.
Alors
J'ai dit malheureusement mort. Fuguin.
Pardon, mais c'est pas facile cette voix là.
Non, elle est pas facile.
Qu'est-ce qu'il a fait de connu?
Oula, mais non, si je te donne n'importe quel grand succès, ça sera trop facile.
C'est fou qu'on trouve pas en fait.
C'est un français?
C'est un acteur, réalisateur, auteur, compositeur.
Il fait tout quoi.
Pygmalion.
Serge Gainsbourg.
Oui, exactement.
Non, c'est pas reconnu du tout, Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg, au tout début de sa carrière, absolument. Oui, ça s'appelle La chanson du forçat bien joué.
J'adore.
Ah ouais.
J'avais joué à c'est joli.
Belle chanson de merde. Hein.
Ça peut foutre un petit cafard.
Alors, deux points pour Leïla, un point pour Daniel, un point pour Max Boublil, deux pour Lisa Delmoitié. Tout va se jouer là-dessus. Ça rapporte 3 points et la victoire.
Scheller.
Daniel, non.
Scheller.
Non plus.
Attends, deux secondes.
Mélanie, en fait. Tu peux gagner là-dessus?
Non.
Si.
Si, c'est-à-dire que tu connais Mélanie, c'est quelqu'un proche de toi.
Tu connais.
C'est quelqu'un avec qui tu dînes.
Je sais
en
pas.
En regardant le mur de la
Daniel.
Prison.
Daniel,
tu
tailles?
Oui.
Oh, bravo, Daniel.
Le mur de la prison d'en face, victoire de Daniel.
Inter, la bande originale avec Maggie et Leïla Kaddour.
Neuilly, Poissy, il faut situer ces deux villes pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens. Une ville est considérée comme cossue, bourgeoise, chic, blindée.
Ouais, on parle de Neuilly.
Ouais, de Neuilly. Ouais. Voilà. Et l'autre est...
C'est pas le même prix du mètre carré. Quoi.
Et l'endroit...
À son côté, non, Stéphane Plaza, là.
Par contre, il va vraiment se retrouver dans un mètre carré. Ouais. Poissy est l'endroit où se trouve une prison. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette prison?
Elle a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des prisons pour les courtes peines et des prisons pour les longues peines. Et apparemment, quand tu es en attente un peu de jugement, c'est une prison où tu vas. Ça s'appelle. Il y a un nom, il y a un terme technique que le réalisateur d'habitude donne que j'ai pas. Mais c'est en attendant de savoir vraiment
d'être jugé. C'est ça.
Voilà,
en tout cas, c'est un juge joué qui est dingue d'ailleurs, joué par Gérard Darmon, tellement drôle. Il a deux scènes dans le film, mais qui sont des scènes clés du film. Et quant à vous, Mélanie Bernier et Max Boublil, vous êtes un couple qui vivait donc très branché marque, très branché dépenses bourgeoises avec du personnel à la maison, l'appartement, la réussite sociale.
Oui, ils écoutent
sociale.
Pas France Inter.
et vous êtes à la tête d'une chaîne de restaurants.
Enfin, mon mari. Moi,
vous,
non.
Pas du tout.
Non, moi je travaille pas. Moi, j'élève le fils unique. Enfin, c'est plutôt la nounou qui le fait. Je vais faire les ongles et je pense à ce que je pourrais faire de ma vie. Et voilà.
Mais la vie, quoi.
C'est ma vie au quotidien. Donc, c'est Max qui tient ses restaurants.
Oui. Et ces restaurants, hasard, sont installés à côté d'un distributeur de billets. Comme par hasard, le terminal de la carte bancaire ne fonctionne pas. Donc, allez retirer de l'argent liquide.
J'ai beaucoup de cousins dans la restauration et dans le commerce qui ont souvent CB en panne, qui est une petite entourloupe pour pouvoir être payé en espèces. C'est très connu. Oui. Dans le santé, il n'y avait que des CB en panne, par exemple. oui, c'est très connu dans le monde de la moquette, par exemple. Il y a beaucoup de CB et de la restauration.
C'est un truc crypté, le monde de la moquette?
Je sais pas, dans le monde du revêtement de sol, tout ça. Oui.
Non, c'était premier degré.
Non, il n'y avait aucun deuxième degré là-dedans.
Et chercher un truc, genre,
je sais pas,
un sex shop.
Moi, papa.
Des années 70.
De ceux qui vendent des survêtements de sol.
Je sais pas.
Okay. Voilà, donc c'est un moyen de faire un peu des espèces.
Alors, Leïla, quand on dit.
Fume la moquette.
Leïla, quand on dit drugstore, c'est pas forcément.
Ah, tu vois des sous-entendus.
J'ai entendu cette expression, le monde de la moquette.
Dans ma famille, certains soirs, il y a du monde de la moquette.
Très bien. Donc, il a trouvé.
Il parle comme ça, si tu veux tout savoir.
Il a trouvé une combine pour avoir un maximum d'argent liquide qu'il entrepose chez lui et qu'il cache. Le plus possible. Il est balancé par l'un de ses collaborateurs.
Exactement.
La police débarque au moment où il est en train, en plus, de donner une enveloppe en cash à
un banquier
qui a lui accordé un nouveau prêt pour monter un nouveau restaurant à côté d'un nouveau distributeur.
Exactement. Bon, il fait des petites malversations, tout va bien pour lui, et du jour au lendemain, il va se retrouver pris par la police et il va se faire envoyer dans la prison de Poissy. En fait, au début, il se lève dans un appartement de 300 mètres carrés avec une très belle femme, et le soir il va se coucher dans une cellule de 9 mètres carrés avec deux co-détenus très spéciaux.
Avec de très beaux hommes.
De très beaux hommes qui sont Steve Tientcheu et Malik Amraoui qui sont magnifiques aussi.
Extrêmement drôle. Alors il faut préciser que Mélanie, à ce moment-là, vous récupérez la boutique. C'est vous qui devenez la patronne.
C'est moi qui vais devoir essayer de sortir mon mari de. de prison, et puis surtout que...
Alors que vous êtes au courant de rien, vous savez même pas qu'il y a des tonnes de liquide à la maison.
Elle est au courant de rien, mais bon, ça, elle a quand même beaucoup de Chanel et de Gucci à la maison, elle doit quand même un petit peu se
Gucci
douter.
Même, ouais.
Gucci même. Elle doit un petit peu quand même se douter que son mec est quand même un peu filou et qu'il y a quand même pas mal de cash qui circule à la maison. Mais... Oui, du jour au lendemain, elle, il va falloir qu'elle redresse la barre, elle ait sauvé la boîte, les salariés, et essayer de sortir son mari de prison.
Voir blanchir l'argent.
Voir blanc, elle est prête à tout.
Voilà, c'est ça. Je tiens juste à préciser auprès des employés de la maison Gucci que cette blague Gucci, Gucciot est dans le film, je ne serais jamais...
Ouais, exactement. Sûr, j'ai pas envie de te griller.
Jamais pas.
on voit le client habillé.
Et je salue Christine.
T'inquiète pas, Nagui, ils vont pas se fâcher avec toi.
On n'avait pas les mêmes endroits. Nous, on va acheter nos vêtements chez H&M. On est des gens simples.
Ça, c'est ça. Gens simples. Alors, dans ce film, souvent, il y a une blague qui revient, enfin, une phrase qui revient dans ce film. C'est limite raciste, ça. Et c'est vrai que vous jouez avec la frontière du racisme et du cliché. Sur le côté, les juifs sont les voleurs, les arabes sont en prison, les
voilà,
juifs,
c'est clair au moins. Voilà,
l'antisémitisme est omniprésent en prison et il ne faut surtout pas essayer dans la bande-annonce. Oh. Et Anne Charrier, là aussi, est à pleurer de rire en infirmière psychologue, où elle dit ah non, surtout ne dites pas en prison.
En fait, il est mal conseillé. C'est la psychologue de prison qui lui dit ah non, il faut pas dire que vous êtes juif. Elle pense qu'il est musulman et on joue avec les clichés pour mieux les démonter ensuite, évidemment.
Oui, oui, c'est ça. Mais c'est quand même, on sent que la ligne est fragile et est tenue. Et c'est pour ça que souvent, il y a cette phrase « Mais c'est limite raciste que vous dites, c'est limite raciste ». C'est ce qui fait que, comme vous le dites vous-même, on ne peut pas vous taxer de racisme ou d'antisémitisme en voyant le film.
Non, parce que...
Ah, vous avez hésité.
Non, mais pas du tout. Non, parce que j'étais en train de me dire, si on pouvait avoir tout le public du RN en même temps, ça nous arrangerait. Non, mais... C'est quand même un bon pourcentage.
Ouais.
30% de la population.
On est désespérés à ce point.
Non, justement, le but, c'est une joke évidemment. Le but, c'est de rire ensemble évidemment. On a tous des a priori les uns sur les autres. Quand j'arrive là-bas, je suis très mal conseillé. Je me dis.
Là-bas, c'est
en
prison.
En prison, c'est en prison. Je tombe sur une psychologue qui me dit, il faut surtout pas dire que vous êtes juif. Alors tout de suite, il se fait passer pour un rebeu dans la prison et il va se faire démonter très vite.
Il se fait cramer parce
qu'il a que des mauvaises idées.
Il n'a pas les bons codes.
Mais non, il n'a pas les codes. Il paraît que les mecs qui arrivent en prison comme ça, qui pensent faire les malins, ils ne font que des erreurs. Et il y avait un des acteurs qui joue dans le film qui a vraiment fait un
ex-détenu.
Voilà, mais voilà, je ne voulais pas trop citer Gérard Jugnot. Mais voilà, c'est fait.
Un
mec de fourgon dans le 9-3. Non, c'est un autre, évidemment. Et il a fait de la zonze, GG. Et qui nous a dit que tout. Moi, à chaque fois, j'allais le voir et il nous disait non, mais ça, c'est crédible. Un mec qui vient de débarquer en prison, il va faire ces conneries-là. Il pense qu'il est malin et il va faire que des conneries et c'est ce que fait mon personnage. Et bien sûr, on joue des clichés, mais pour mieux les démonter après. Et c'est vraiment, et ce qui sort de toutes les projections, c'est que c'est un film qui parle de vraiment de fraternité et d'une bande de copains.
Oui, il y a une fin un peu positive et très fraternelle. Oui.
Mais c'était fait sincèrement.
Pour le coup, ton personnage, au début, je le trouve pas malin, je le trouve lâche. Et c'est ce qui fait que c'est drôle.
Ah, c'est même un petit con. Il parle mal à tout le monde. Ouais.
Vraiment, c'est un personnage qui a une forme d'arrogance. Total. Avec la vie, avec l'argent. Et finalement, il va se retrouver... face à lui-même. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. C'est un film sur la fraternité, mais aussi un petit peu sur comment on va apprendre à s'assumer, à se découvrir. Il y a tout ça dans la comédie, etc.
Et rentrer dans le rang un tout petit peu.
Et rentrer un peu dans le rang. Et lui, il a vraiment ce truc lâche qui est très très drôle, de ne pas assumer d'où il vient, qu'il est, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et finalement, dans la prison, c'est de ça dont lui on veut le plus. Finalement,
d'avoir menti.
Bien sûr,
parce qu'en vrai, s'il avait dit, il risquait rien. Oui, il a des a priori, tout le monde a des a priori les uns sur les autres.
C'est ça. Claudia Tagbo est extrêmement drôle aussi.
Très drôle.
Très touchante.
En patronne.
C'est Chico.
Elle est Chico.
Elle est matonne, il faut le dire.
Voilà.
Parce que là, on rit entre.
Non, c'est vrai. On va continuer à en parler jusqu'à midi, on a le temps. Mais d'abord, voici Lisa Delmoitier. Vous ne devriez pas faire un film comme ça, Lisa. C'est étonnant.
Non.
Pourquoi ?
Voilà, c'est tout. Non, je vais quand même développer. Non, j'aurais pas fait le film comme ça. Moi, j'ai toujours cru que je serais assez solide pour la prison. vous voyez, je suis quand même costaud, quoi. Juste tant que j'ai mon téléphone. Hein, moi, je suis accro à mon téléphone. Mais le film Neuilly Poissy m'a ouvert les yeux sur un problème de taille. J'ai un iPhone, mais un tout petit anus.
Oh non.
Il faut expliquer.
Tout le monde connaît.
Oui, non, faut expliquer la vanne.
D'après le film, donc, pour acheminer un téléphone au milieu carcéral, c'est le seul canal possible.
Canal.
Je me suis toujours demandé. Pourquoi les dealers avaient des 3310, mais je comprends maintenant. Le Nokia est plus compact que l'Apple. Hein. Mm. En plus, l'iPhone est tactile, c'est dangereux. Tu pètes trop fort, t'appelles ta mère. Alors, avec les touches du 3310, c'est quand même plus compliqué. Quoi. Faut déjà avoir mangé beaucoup de haricots pour finir une partie de Snake à la force de ton cul. Je m'excuse pour les auditeurs qui se désolent du niveau de mes blagues, mais le film parle de survie en prison, notamment grâce à un anus entraîné et d'ententes compliquées entre arabes et juifs. Comprendrez donc que j'ai choisi de me concentrer sur le trou de balle. Celui-là, en tout cas. Mais c'est intéressant de vous voir, Max Boublil, vous pencher sur un sujet sensible. Vous jouez un juif magouilleur et vous jouez avec les clichés sur les juifs. C'est ça qui est cool avec les juifs. Hein. T'as pas besoin de te foutre de leur gueule, ils le font pour toi. C'est gratuit. Vous jouez avec les clichés sur les arabes aussi. C'est un bon moyen de convaincre les plus récalcitrants de l'intérêt de la diversité au cinéma, finalement. Hein, ça permet de continuer à déconner avec les clichés racistes. Les blancs peuvent peut-être plus moquer des juifs ou des arabes, mais laisse les juifs ou les arabes faire des films, ils le feront eux-mêmes. Voilà, ça se perpétue, c'est pas mal. Et votre personnage, au début, est assez insupportable quand même, il faut le dire. Hein, sa femme, jouée par vous, Mélanie Bernier, a beaucoup de patience. Moi, j'étais presque contente pour elle que son mari finisse en tôle. Il y a des maris, ils ont trop la confiance. Hein. Parfois, la seule façon qu'ils retrouvent la raison, c'est qu'ils aillent faire glisser un savon en prison. Voilà. Hein. Parce que c'est ça, hein, votre personnage, Max, à cause de ses magouilles, se retrouve en tôle et tout le monde lui dit de cacher sa judéité, de se méfier des Arabes, en gros. Un grand classique raciste. Il ne suffit pas d'être juif pour entendre ça, malheureusement. Moi aussi, vous savez, on m'a dit de me méfier de Leïla et Nagui. Avant d'arriver ici, mais finalement, cette méfiance est infondée, hein, vous trouvez des moyens de vous rapprocher. En même temps, les chiottes dans un coin de la cellule, ça rappelle vite à tous les co-détenus qu'au fond, on est tous humains. Hein. C'est aussi comme ça qu'on s'est rapprochés, là, Nagui et moi.
Ah oui,
en même temps, quand tu chies au compte-gouttes, t'as le temps de créer du lien. Quoi, hein. Je rappelle que j'ai un petit anus. Et finalement,
on l'embrasse.
Je sens, c'est pas possible que je l'ai choqué. Et finalement, c'est un bon modèle de vivre ensemble à la prison. Hein, toutes les origines sont représentées, quoi. Des blancs, des noirs, des arabes, des juifs, des latinos, des asiatiques. Apparemment, quand tu commets un crime, on t'enferme sur la page d'accueil de Pornhub, quoi. C'est incroyable. Et ça se mélange visiblement. Ils chient ensemble, ils mangent ensemble. On devrait envoyer tous les candidats d'extrême droite en prison, hein, qui se rendent compte qu'on est tous pareils au final.
Ça.
Je dis ça, j'ai jamais fait de prison. Enfin, je suis déjà allée au hammam, donc je sais ce que c'est de se doucher avec des arabes. Voilà. Quand je dis que j'ai jamais fait de prison, c'est pour le moment, hein. Parce qu'avec les horreurs que je viens de dire, j'ai la police du bon goût qui veut m'envoyer en tôle, donc je dois vous laisser, j'ai un sphincter à dilater.
Merci.
Et elle va sur scène.
Ah ouais.
À la nouvelle scène le jeudi soir, tous les jeudis soirs, Lisa Delmoitier.
Mélanie Bernier, Max Boublil, Steve Tiencheux,
Malik. C'est dur d'enchaîner après la nuit.
Amraoui, dont j'ai l'habitude maintenant, tu sais. Malik Amraoui, Julien Nasseri, Anne Bouvier, Walid Afkir, Claudia Tagbo, Éric Delcourt, Souleymane Belmioud, Nabil Akrouti, Kevin Dedonne, Gérard Jugnot, Ludovic Bertillon, Gérard Darmon, Gaël Lorillon, Manoël Gaillard, Adrien Jolivet, Florence Maninet, Bruce Dombolo, y a un monde fou dans ce film. C'est ça aussi. Et ça joue dans tous les sens, ça joue avec tous les clichés. Et c'est ça qui est extrêmement drôle, parce qu'on les voit venir et ça fait quand même rire. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans ce jeu où tout est écrit? C'est le premier film, je crois, de
Grégory Boudboul. Écoute, oui, non, il nous a laissé vachement libre, il nous a laissé plein de vannes qui sont maintenant dans le film et dans la bande-annonce, quelques scènes de comédie qui sont vraiment des impros qu'il nous a laissé faire, et ça c'est très agréable, parce que parfois il n'y a pas plus drôle que ce qu'on va trouver en impro. Par moments c'était trop, mais il a saisi les bons trucs qu'on a, parce qu'avec Malik et Steve, ça n'arrêtait pas, les impros, ça n'arrêtait pas. Ils étaient ouais, vraiment c'était la colonie de vacances, quoi.
Au milieu de ce monde de mecs, parce qu'il y a, au niveau casting, il y a beaucoup plus d'hommes que de filles, il faut tirer son épingle du jeu, ne pas tomber aussi dans les clichés, parce que là aussi elle est un peu un cliché, votre personnage, Mélanie.
Mais oui, bah c'était un peu le risque de ce film et le dès le départ et le
écueil évité, mais c'était pas
oui,
simple.
Oui, c'est ça. Mais moi, je crois que c'est ce qui me plaisait aussi dans ce projet quand je l'ai lu, parce que je le trouvais assez audacieux, du coup, d'oser parler de ça, surtout en ce moment. Alors encore plus depuis le 7 octobre et tout ce qui se passe.
Bien sûr.
Mais justement, je me disais, oh là là, on va sur un sujet tellement touchy dans une période où malgré tout, on a tous beaucoup de mal à s'exprimer. À...
Non, et que la moindre vanne est prise comme une agression, quel que soit le côté.
Exactement, ouais. Alors que peut-être que tous dans notre quotidien, hein, on peut en faire et sentir libre. Et puis dès qu'on doit réellement en parler, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'aimais bien ce danger-là, cet enjeu-là, en tout cas. Et je trouvais que s'il était réussi, du coup, ça pouvait faire un très bon film. Et je trouve que c'est le cas.
Et faire une comédie, ça, c'est un
c'est la meilleure manière d'en kiff. Parler. C'est
non,
un
mais
kiff.
De le jouer.
Et de le jouer. Bah, moi, ce personnage, quand même, j'avoue que je me suis bien amusée. Déjà, je me suis inspirée de plein de nanas que je connais.
Ah bon
ouais, donc, du coup, c'est ça, je crois, qui m'a le plus, c'est que Lisa Abissera, je la ressentais, je voyais ce que je voulais en faire. Et puis oui, dans les clichés, oui, il y a du cliché, mais les clichés sont toujours sur quelque chose d'un peu vrai. Hein. C'est comme les rumeurs.
Oh oui, c'est une caricature.
Aussi, c'est une caricature.
C'est de grossir le trait d'une réalité.
Voilà, et la comédie, c'est aussi, ça part aussi souvent de ça. Donc moi, je me suis beaucoup amusée, même si j'étais un peu sur le fil rouge aussi pendant tout le film. Je me disais, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que ça va pas être too much?
Comment Grégory Boudboul réussit à faire un tel casting avec des guests, avec vous, à vous convaincre quand c'est un premier film? Il arrive, il est convaincant, ce sont des rendez-vous qui se
C'est des rendez-vous, c'est-à-dire qu'on imaginait, par exemple, pour le juge, on voulait Gérard Darmon depuis très longtemps, parce que Gérard Darmon, c'est la cité de la peur, parce que c'est plein de films cultes et qu'on adore Gérard Darmon. Donc j'ai été faire des déjeuners avec Gérard Darmon pour lui dire, vas-y, viens, s'il te plaît,
fais le juge. Avec lui
Gérard, et puis moi, je jouais tous les soirs avec lui, donc c'était un peu plus facile.
C'est vous qui l'avez convaincu.
Ouais, bien sûr, et Gérard Jugnot,
ça
pareil.
Ça lui va tellement bien, le rôle du juge.
Mais il est magnifique. Et surtout, c'est un petit fush qui tombe sur un juge fush et qui se dit, c'est bon, ça va passer crème, vendredi soir je fais Shabbat en famille, et le mec, et c'est souvent ce qui se passe, ouais. Pour avoir eu pas mal d'histoires de fuges qui sont tombées sur des juges fuges, et au contraire ils se disent, bah non, je vais pas faire de
il faut que je prouve mon intégrité
et je vais lui sévère, montrer, donc je vais être encore plus sévère que d'habitude, donc il se fait laminer pour juste un peu d'espèce, quoi.
Mais non, il se fait laminer pour son attitude.
Oui,
parce que parce qu'il lui parle comme un vendeur de merguez.
Parce qu'il n'est pas prêt de comprendre à ce moment-là que, de toute façon, s'il est libéré à nouveau, il va recommencer. Donc il a besoin d'une petite leçon.
Oui, c'est ça. Ouais. Il lui met un petit taquet dans les dents, comme on dit dans le métier.
Le gamin, il joue tellement bien aussi. Il est trop mignon.
Je l'adore, Roman.
Ouais, voilà.
Mais un cœur, cet enfant. J'ai adoré travailler avec lui.
Non, mais il est Roman Angèle, hein, si... c'est ça, son nom de famille, c'est Angèle.
Mais je ne connais pas son nom de famille, je ne l'appelle pas par son nom de
C'est Félix, hein, dans le film, c'est Roman Angèle. Il est trop chou.
Ouais, il a une tête mignonne.
Mais oui,
il a un petit tic qui sort la langue tout le temps, comme ça.
Mais surtout, lui, vous allez le protéger, les parents le protègent en disant, mais papa est parti en voyage, papa n'est pas en prison, quoi.
Il croit que je suis en Afrique, tu as dit que j'étais en Afrique dans le film,
c'est ça.
Et je lui dis, c'est pas un peu raciste, je suis en prison, tu lui dis que je suis en Afrique.
C'est ça. Voilà, et chaque fois qu'il y a une vanne comme ça, où on se dit, waouh, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Immédiatement derrière, dans le film, il est dit, c'est un peu raciste.
Bah, bien sûr, il faut la désamorcer, quoi.
C'est ça.
Évidemment.
Ça fonctionne, en tout cas, c'est familial.
Il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir le film. Le mec est vraiment très large. On dirait un mec politique, frère. On dirait un mec qui se présente aux élections. Il y a beaucoup. Non, c'est vrai, c'est des familles qui viennent. Et c'est beau de voir, je vais dire un truc cliché, mais c'est beau de voir des salles où t'as justement beaucoup de Français, des chrétiens, des juifs, des arabes qui rient ensemble. Et vraiment, dans la tournée d'avant-première, c'est ce qui se passe. Et ça fait plaisir quand même, ça fait du bien en cette période. Allez,
ça c'est la musique du film.
Exact.
Je me disais aussi.
Ouais, je me disais, ça me dit quelque chose.
Alors, est-ce que vous êtes capable de reconnaître à quel moment on est dans le film si je vous passe la musique?
Ouais, bah oui.
Ok, par exemple ça.
C'est pas
quand je suis. Si, c'est dans le film. C'est quand je suis au mitard, non?
Bah d'accord.
Non. C'est pas quand je suis au mitard,
non. Un piège.
La douche?
C'est avec Gérard Jugnot.
C'est avec Gérard. Ah bah c'est le, ah, oui, la scène dans le avec le rabbin, quoi.
Exactement.
C'est le repas.
Ça c'est quand on est en train de faire
du sport.
Non, c'est quand on est dans la cour, la première visite de la cour.
Non,
je me fais voler les chaussures.
Non.
Ah putain, vous êtes trop fort.
C'est la douche.
C'est la douche, exact, c'est la douche, exact.
Oui, il essaie de se protéger avec sa brosse à dents, oui, c'est dans la bande-annonce.
Mais c'est parce qu'il y a plein de clichés sur la prison, on a tous plein de clichés, on pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans les douches, et en fait, bah non, bah, pas tant que ça.
Anne Charrier, le personnage d'Anne Charrier.
Ouais, bah, je suis déçu, bah ouais, parce que ça a démonté plein de clichés, c'est assez sympa. On voulait vraiment un film qui donne envie aux gens d'aller en prison.
Oui, c'est vrai.
Et je pense qu'on l'a réussi.
Ça s'appelle Neuilly-Poissy, ça sort le 8 mai au cinéma. Tout de suite, voici Mélodie.
Un problème, Nagui, Mélodie n'est pas là aujourd'hui.
Non.
Mais, ouais. Mais attention, on accueille notre médium astrologue, mais néanmoins poète, Jean-Denis Grosju.
Pénis de chair, pénis de sang.
Jean-Denis, hein, vous êtes à l'antenne.
Ça a commencé, ouais, l'émission a commencé. Mais vous, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé, là. Allez, on y va.
C'est bon.
Ah, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mmh. Vous avez déjà essayé, vous, d'enfiler des perles?
Non, pas récemment.
Ah, moi, une fois, pas deux, merci. Hein. Je me suis blessé, on m'avait pas dit qu'il fallait retirer le coquillage. Allez, vous laisse un peu de temps et un gaviscon pour la digérer.
Ça y est, oui, ça y est.
Alors, j'en étais où? Je perds le fil, ça me rappelle ma dernière fissure. Alors, le fil. Ah oui, c'est avril. Et en avril, c'est l'exomil. Allez, l'horoscope. Capricorne, bête à cornes. Pétez un coup, les capricornes. On n'a qu'une vie. Heureusement, d'ailleurs, parce que vous êtes chiants comme du cidre. Cancer, vous vous sentez pousser des ailes. Ce n'est absolument pas normal. Consultez avant de vous retrouver transformé en mouche ou je sais pas quoi. Hein. Scorpion,
oui.
Je prédis un gros succès. Vous avez déjà fait de la radio?
Non.
Verseau, vous êtes une taupe. Hein? Ah non, vous êtes taupe. Vous êtes top. Ah pardon, vous êtes top. Gémeaux, votre nouveau t-shirt vous gratte les tétés. Pensez à crémer les rustines. Oh. Lion, soyez la meilleure version de vous-même. C'est pas génial, mais à défaut. Sagittaire, si vous êtes en couple, profitez-en tant que c'est possible. Si vous êtes célibataire, hein, ou une Sagittaire risque de se libérer prochainement. Soyez attentif ou peu regardant. Poisson, vous tenterez une variante de votre tête de mouton poêlé et ce sera un succès. C'est bien la seule chose que vous réussirez cette semaine. Vierge, mon Dany, il est où mon Dany?
J'ai pas bougé, Jean-Denis, je suis là.
Ah oui, bah, si je peux te conseiller, ne bouge pas trop, hein.
Ça part.
Alors, taureau, les plaisirs de la chair n'ont plus de limite pour vous. Vous êtes une bête sauvage, va falloir vous mettre en cage et vous n'attendez que ça. Bélier, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Hélas, vous avez une minable paire de deux. Balance, tout ce que vous touchez se transforme en or. Mettez des gants quand vous faites vos besoins. Allez, on se revoit en mai les cocos, soyez prudents, certains plus que d'autres. Gros bisous.
Merci Jean-Denis.
Mélodie Fontaine
sur scène
n'est pas à la radio, mais elle est sur scène
à Saint-Riquier les 20 et 21 juin, Festival d'Avignon du 3 au 21 juillet.
Alors, la fameuse question peut-on rire de tout est posée régulièrement. La question que nous poserons à Catherine Escrive, qui est journaliste et qui travaille aussi sur la rubrique cinéma au Pèlerin, est-ce qu'on peut rire des religions et le rire sur les religions au cinéma? Évidemment, les Rabbi Jacob et autres, on l'évoquera avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans vos vies, Mélanie Bernier et Max Boublil. On va commencer en 99-2000. Mélanie, vous écoutez?
Ah ouais, la Rousseau, carrément. Allez!
Évidemment.
Et il se passait quoi dans la vie de Mélanie Bernier à ce moment-là, 99-2000?
Moi, mon nom, Mélanie, c'est votre première apparition à l'écran. C'est un téléfilm de Patrice Martineau.
Oui.
Vous êtes toute jeune?
Toute jeune. Oui, vraiment, je suis toute jeune. J'ai mon papa qui m'a...
Mineur, il faut le dire.
Mineur, ouais, sur le tournage. Et savent qu'on tourne dans un bus, donc en fait il est resté toute la journée à attendre dans un hangar pendant que moi je tournais dans Paris dans le bus. Donc ouais, mais j'étais vraiment, c'est presque une silhouette quoi.
Ouais, c'est ça, mais c'est un beau premier souvenir.
Oui, bah oui, forcément.
Un papa inquiet, aujourd'hui on parle de tout ce qui a pu se passer dans le cinéma pour les actrices, pour les acteurs. quand on est mineur, quand on est une femme ou un garçon, peu importe, puisqu'on sait maintenant que les prédateurs s'attaquent à tout le monde. Est-ce qu'il était très inquiet, très protecteur? Est-ce que
vous... Non, j'ai l'impression qu'ils étaient inquiets, vigilants, présents, mais que... parce que je suis provinciale en plus, donc du coup quand je venais à Paris, c'était...
Vous êtes dans le sud, à Grasse.
Oui, mais j'ai grandi vraiment en Touraine, donc okay. Du coup...
Ah bah ça va.
C'était génial cette intervention.
Mais non, mais du coup, oui, c'était. Bah, je me souviens quand je prenais le train toute seule, on avait en plus à l'époque, vous savez, on n'avait pas le maps sur le téléphone, ouais. Donc on avait vraiment
pas de smartphone surtout.
Pas de smartphone, etc. Ouais. Donc oui, mais je ne dirais pas inquiet, c'était plus. Je ne sais pas si aujourd'hui ils le referaient, ce serait intéressant que je leur pose la question, mais ils ont toujours fait que pour qu'il y ait un adulte qui vienne me récupérer, etc. Mais aujourd'hui, ils me posent parfois des questions, ils
mais
me disent.
Aucun directeur de casting, aucun réalisateur, personne ne vous a agressé.
Non. Moi, j'ai plus souffert parfois d'être une jeune personne et d'avoir plutôt souffert d'un harcèlement un peu moral du fait d'être une fille jeune, infantilisée, un peu de mépris sur les tournages, de sentir des classes un peu différentes, comme ça, de cette hiérarchie très forte, que de harcèlement sexuel, etc. Ou ça, je sais pas, j'ai toujours réussi un petit peu à le gérer, à avoir le... Enfin, je dis pas que j'ai eu de la chance de ça. Mais par contre, souvent...
Ouais, ou la force de faire comprendre que...
Oui, mais ça voudrait dire que moi j'ai la force et que d'autres l'est pas. Donc
c'est compliqué comme discours.
Ouais, je pourrais vraiment pas dire ça. C'est vraiment plus... j'ai réussi à passer entre les mailles du filet. Mais ce dont j'ai plus souffert, c'est d'attitude vraiment de comédien, parfois de réalisateur, parfois de réalisatrice aussi. Hein, c'est vraiment tout le monde. Et je me suis sentie parfois humiliée. Vraiment.
Max Boublil, en 2000, vous écoutiez...
J'ai fait que des choix très cool.
Pas sincère.
Non, sincère. Non, mais je pense qu'en musique,
je
suis zéro faute. Il travaille sur l'image. Non, mais voilà, bah, Eminem.
Bah, évidemment.
Eminem. Moi, c'était une révolution, Eminem.
Évidemment.
Non, mais Eminem, c'était tellement cool. C'était tellement la révolution. Moi, j'ai eu deux révolutions en musique. J'ai eu Nirvana quand j'avais 12-13 ans. Et après, Eminem. Pour moi, Eminem, c'était fou. C'était le mec qui était. C'était un mauvais élève. C'était le mec qui disait des grossièretés dans ses clips. En même temps, qui rappait de ouf. Qui était associé à Dr. Dre. Pour moi, Eminem, c'est une révolution.
Et qui avait un
flow. Un flow de malade. Enfin, c'est moi, je rêvais d'être un gars comme ça.
Et à cette époque-là, on vous voit dans plein de téléfilm Police District, c'est sur M6. Il y a Sous le Soleil, il y a Navarro.
Que des trucs cool.
Navarro, j'écoute.
Donc,
Sous le Soleil, bien sûr, j'ai fait du Sous le Soleil. Regarde comme elle est contente.
J'adore.
Ouais, Sous le Soleil, j'en ai fait. Je faisais Aldo, le fils d'un mafieux.
On t'a pas vu longtemps. Hein.
Mécanicien de bateau. Ouais. Et tout était pas crédible dans cette histoire.
Et ça allait avec toutes ces filles en maillot de bain en permanence.
Écoute, moi j'étais très. Oui. Pourquoi? Non, j'étais très prude. Ouais, ça se dit. J'étais pas dragueur,
toujours.
Tout ça. Toujours, c'est vrai, elle a raison. Toujours.
En tout cas, vous enchaînez à ce moment-là les téléfilms. Vous présentez une émission aussi qui s'appelle American Studio.
Mais non.
Ah oui, je m'en souvenais même
sur
plus.
Sur Série Club.
Oui, c'est vrai. Vous avez
fait animateur.
J'ai fait animateur. Ouais,
vous êtes prêt à tout.
J'étais prêt à tout. J'ai fait de la pub pour du jambon. Il fallait bosser. Bien sûr que j'étais prêt à tout, évidemment. Quand tu commences, t'es prêt à tout.
Tu m'as faim. Non, mais tomber si bas animateur quand même.
C'est vrai que c'est tombé très bas.
Ça me fait de la peine. Franchement, ça me touche. 2006, Mélanie Bernier, vous écoutiez. Solaire, Ayo, elle évoque quoi pour vous cette chanson d'Ayo? Qui n'est pas la plus connue d'ailleurs des titres.
Oui, c'est vraiment, je sais pas, c'est les chansons, j'ai l'impression que c'est pas toujours quelque chose de très intellectuel, mais principalement. Et moi, cette chanson, elle me rappelle une période de ma vie un peu particulière. En fait, je crois que je l'écoutais pas réellement en 2006. Je crois que je l'écoutais après.
Ok.
Je sais pas pourquoi, j'ai découvert cette chanson.
Émotionnellement, elle vous procure quel sentiment?
Parce que j'avais perdu... elle me rend triste un peu. Je sais pas, sa voix, elle me touche. Il y a un truc un peu nostalgique. Là, j'ai pas envie de pleurer, mais voilà, c'est plutôt une chanson qui me rend un peu triste.
Pourtant, à cette époque-là, vous tournez avec Jean-Jacques Hano dans Sa Majesté Mineure et José Garcia, et dont vous parlez en des termes très élogieux, tous les deux.
Bah oui, c'est une aventure incroyable pour moi d'avoir fait ce film.
Avec Vincent Cassel aussi.
Avec Vincent Cassel, il y avait un casting de dingue. J'étais à poil toute la journée pendant 3 mois. On tournait en Espagne.
À poil toute la journée, c'est-à-dire ?
Bah, j'avais beaucoup de mal avec ça. Vêtements. C'était difficile pour moi. En fait, c'était l'antiquité pré-homérique.
En fait,
on était en toge toute la journée. C'était un film très, très spécial.
Tout le monde était à poil. Hein, enfin,
tout le monde était à poil. Ouais. Pas que moi. Moi, je tournais face à des cochons. J'étais jalouse d'une truie. Enfin, c'était complètement.
Ça va relancer. La location
c'est très. Je non, sais mais... pas, ça donne vraiment envie d'aller voir le
non,
film.
Non, mais j'ai pas besoin de donner envie de non, voir ce sûr. Film parce que ce film, pour moi, je me souviens que quand j'ai décroché le casting, il a vraiment fait partie un peu, je pense, après de comment j'ai avancé dans ce métier, parce que quand j'ai décroché ce casting, il avait vu vraiment tellement d'actrices. Je crois qu'il y avait même Monica Bellucci à un moment donné qui avait été pressentie, et c'est moi qui décroche, quoi. C'était incroyable. Et tout le monde me disait, non, mais toi, tu vas voir, là, ça y est, ta carrière est lancée. J'étais toute jeune. Je me suis retrouvée placardée partout dans Paris, sur les colonnes Maurice et tout. Et tout le monde me prédisait, voilà, que ça y est, ça allait
lancer. L'explosion.
Et le film a été, mais détesté, lâché.
José Garcia nous en a parlé la dernière fois, d'ailleurs, en disant extrêmement... le plaisir qu'il avait eu à le faire et en même temps la déception par
ça
rapport
a été
au succès.
Très douloureux. Je me souviens que j'avais même pas été prénominée au César en meilleur espoir, alors que
c'était attendu.
C'était attendu. Et puis ils avaient dit, mais non, le film est tellement pas aimé, etc. Et pour moi, je pense que je suis rentrée vraiment dans ce métier comme ça, et ça m'a permis de vivre beaucoup plus sereinement. Après, ça m'a tout de suite endurcie, de comprendre un peu le jour de ta chance ou pas ta chance, ou c'est ton moment, c'est pas ton moment.
Non, mais ça ne dépend pas que de vous.
Mais moi, ça ne dépendait pas de moi. Moi, personne ne m'attendait dans ce film-là. C'est juste que ce film, s'il avait marché, si les gens l'avaient aimé, aurait pu tout changer. C'est ce qu'on prédisait. Et quelque part, ça n'a pas été le cas, mais je pense que j'en ai fait peut-être une force
aussi.
Mieux,
voilà. En 2006-2007, Max Boublil, vous écoutiez les Strokes.
Évidemment. Encore un bon choix.
Et il se passe quoi en 2006, Leïla, pour Max Boublil ?
Eh bien, vous rencontrez Anthony Marciano. Avec lui, vous écrivez un one-man show, une chanson, vous tournez des clips, et il y a quand même un phénomène qui vient vous entourer à ce moment-là.
Exactement, on a commencé, en fait, je l'ai connu en 2005, c'était mon petit cousin qui était copain avec son petit frère, et je l'ai rencontré en 2005, on s'est tout de suite très bien entendu, il travaillait dans la musique, et c'est...
Faut dire qu'avec le fils de Jean-Jacques Goldman...
Oui, c'était mon copain aussi, c'est la même bande,
voilà,
le fils à Jean-Jacques,
ils ont Michael Goldman, My Major
Company, et un autre qui s'appelle Sevan Barsikian, et ils ont fondé une société, c'est eux qui produisaient mes premiers spectacles, et c'est avec cette bande-là qu'on a eu l'idée des premières chansons, des premiers spectacles, et avec qui on a écrit plein de films, avec Anthony et tout après, mais voilà, on s'est rencontrés d'ailleurs en parlant des Strokes, c'est marrant parce que c'était un groupe qu'on adorait tous les deux. Moi, j'avais les cheveux longs, je me prenais un peu pour le gars des Strokes. On commençait à sortir, c'était une époque pleine de... Voilà, on était très très jeunes, quoi, et on était... Et c'est drôle que cette bande de potes, on ait grandi ensemble et on est tous fait notre voix dans ce métier, en tout cas.
Et démarrer avec ce soir tu vas prendre, c'est-à-dire démarrer avec une chanson, une parodie
qui aujourd'hui ne pourrait plus exister.
Alors c'est ça, c'est exactement.
Je suis pas sûr. Je sais pas. On m'a posé la question, mais en tous les cas, démarrer avec un gros sketch. Mais comme moi j'étais inconnu, enfin je tournais dans des pubs, des téléfilms, j'étais en galère. Fallait que je fasse connaître. J'avais envie de faire un one man show que j'écrivais depuis 2005. J'étais jeune. J'étais prêt.
Ce soir tu vas prendre. Mais... tu vas prendre comme si je sors.
Il fallait que ça marche, quoi.
Ben, ça a marché.
Et ça a marché tout de suite.
Non, ça serait plus possible aujourd'hui. Ouais.
Non,
je sais pas.
Moi, je trouve que ce serait compliqué. Là, on est gêné, par exemple, d'écouter cette chanson.
T'es dégueulasse. Je la fais toujours dans mes spectacles. Non, mais et les gens, et c'est beaucoup des filles qui les reprennent avec des briquettes. Et tout.
Elle était en train de la chanter.
Ouais, bien sûr.
J'aime les moches aussi, on pourrait plus la chanter.
Non, j'aime les moches, c'est mignon.
Oui, ça, c'est mignon.
Et ça, c'est ça emparé par. J'aime les moches et tout ça, c'est plus les jeunes qui sont emparés de toutes ces chansons. C'était des hymnes de cours de récré, quoi. Moi, je suis très fier de cette période. Je suis très content d'avoir fait ces chansons. Et quand j'ai des mecs de 30, 40 ans qui viennent me voir et qui me disent « on a grandi avec vos chansons », ça me fait chaud au cœur. J'ai l'impression d'être Bernard Minet un peu.
En 2011, Mélanie Bernier, vous écoutiez. Never mind, I'll find someone like you. Adèle. Et pour Mélanie Bernier, que se passait-il, Leïla?
C'est la délicatesse des frères Funkinos avec Audrey Tautou, le tournage de ce film où vous travaillez pour la première fois avec Audrey Tautou. Ouais.
Oui.
Ouais. C'était un beau moment?
Oui. Si, c'était super de faire la délicatesse parce que David Funkinos, déjà en fait c'est Stéphane est directeur de casting mais il m'avait toujours casté vu beaucoup de fois en essai et David était donc déjà romancier, il avait écrit la délicatesse et dans la première version de la délicatesse il avait déjà mis et dans le rôle de Chloé, parfois il fait des petites annotations dans ses romans, on pourrait imaginer Mélanie Bernier et quand il a fait le film il m'a proposé le rôle, donc c'était quand même proposé. En plus, j'avais même pas passé d'essai pour le coup. Et donc, c'est oui, un très bon souvenir.
Ouais, et un joli film.
Avec la musique d'Émilie Simon, que l'on salue au passage. À l'époque, Max, vous écoutiez. Snoop Dogg.
Exactement. C'est un remix. Normalement, ça part plus, c'est du Guetta derrière, il y a des synthés derrière. Ah, il est remixé celui-là. Normalement, il y a des synthés de David Guetta derrière qui font partir la chanson.
On retrouve l'animateur.
Et c'est l'époque de Max chanteur.
Ouais.
Donc de Bernard Minet avec Ce soir tu vas prendre, J'aime les moches. Suzanne Boyle aussi.
Ouais, j'ai vu ta mère sur Chatroulette, Classe Gentille, il y en a plein.
Attends, il y avait ça aussi.
Ah voilà.
Suzanne Boyle. Qui était une gagnante de incroyable talent,
ouais, ouais, ouais,
c'est
ça.
Code but
anglais. J'adore ses yeux.
Qui écrivait les chansons?
C'est Anthony et moi.
Dans quelles circonstances vous écriviez ces chansons?
Bon, on cherchait des bonnes blagues à faire et à un moment, il fallait alimenter une machine, un monstre qu'on avait mis en place, qui était la chanson du mois, qui était tellement attendu par les jeunes, quoi, et les cours de
le
lycée,
réseau.
Les cours de fac, et les facs et tout. Ouais, sur les réseaux, c'était trop gros. Et il fallait à chaque fois qu'on trouve des vannes, qu'on produise les chansons, qu'on fasse les clips, qu'on mette des vannes dans les clips, qu'on produise les clips, qu'on monte les clips, tout ça en un mois. À un moment, c'était genre, on dormait plus, quoi.
La référence, c'était quoi? C'était les parodies des Inconnus, de Charlie et Lulu, quand ils faisaient les Top Boys et tout ça.
Bien sûr, on avait tout ça en référence. Et c'est surtout de faire des bonnes vannes en musique. Fatal Bazooka. Et les Lonely Island de l'autre côté de...
Après, les premiers, c'était vraiment les Inconnus.
Oui, c'était moi, les Inconnus, j'étais fan. Quand j'étais petit, je parlais qu'en Inconnu. salut, tu vas bien. C'est moi, j'étais fan des Inconnus.
Évidemment.
C'était un truc de malade.
Évidemment.
Et voilà.
Après, il y a eu L'eau, ça mouille, Le feu, ça brûle.
Bien sûr,
Charlie Top Boys.
Et il y a eu après Fatal Bazooka. Et de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Atlantique, il y avait les Lonely Island qui faisaient des parodies.
Verdan Jankovic qui avait parodié Beat It de Michael Jackson.
Exactement.
Ouais,
et même ils étaient avec Justin Timberlake, tout ça. Donc,
pourquoi il y en a moins d'ailleurs de parodies musicales?
Parce que c'est très compliqué à faire. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'ingéniosité. Le mec, il s'envoie que des fleurs. Ça demande d'être un génie tout simplement et d'avoir l'oreille musicale et d'être bon dans tout.
Apparemment, vous ne l'êtes plus parce que vous en faites plus.
Mais non, mais c'est
plus le temps.
Trop. Ouais, c'est trop. Vraiment, les gens. Les gens aimeraient bien. Après, t'as toujours peur de refaire et de décevoir. Puis aujourd'hui, j'ai un peu plus de 40 ans.
Ouais,
donc,
le public a un peu changé. Vous êtes un peu plus loin de ce public aussi.
Ouais, je pense qu'ils ont vieilli quand même et ils aimeraient bien. Mais tu vas forcément un peu décevoir. Et oui, t'as raison, le public a un peu changé. Puis il faut savoir passer à autre chose par moment.
Voilà. Non, mais quand je pose la question, c'est pas spécialement pourquoi vous ne le faites plus.
Parce que c'est très compliqué à faire.
Avec un ordinateur, on peut retrouver tous les sons possibles et imaginables.
Oui,
avec
c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais il y en a, hein. Il y a de la chanson parodique sur TikTok, tout ça. Et puis maintenant, il y a tellement. Chez les rappeurs,
c'est plus des vannes de 30-40 secondes. Quoi.
Mais maintenant, souvent, les chansons sont presque déjà des parodies, en fait. Les chansons qu'on écoute à la radio, c'est ça aussi le problème. Tu dis, qu'est-ce que je vais parodier? C'est déjà une blague, quoi.
On parle de qui? Jules?
Je vais pas me faire ennemi avec les rappeurs. Je les aime tous.
On va revenir au film donc Neuilly Poissy que vous portez, Mélanie Bernier, Max Boublil, film de Grégory Boutboul, son premier film qui sortira le 8 mai au cinéma et qui joue sur tous ces codes autour de la religion. Catherine Escrive nous a rejoint,
bonjour.
Merci de venir à ce micro, journaliste, chef de rubrique cinéma au Pèlerin. La religion, c'est finalement point de départ de beaucoup de comédies au cinéma. On a en référence Rabbi Jacob, mais ça n'a pas été la seule.
Oui, depuis longtemps, on a commencé avec Don Camillo, Fernandel, qui interprétait ce curé italien face aux mères communistes. Ensuite, Rabbi Jacob. Et en venant ici, en préparant là pour venir, je me suis rendu compte que Rabbi Jacob est sorti 12 jours après le début de la guerre du Kippour. C'est dire combien ce film renvoyait à une actualité...
Oui, ça devait être une cata, comme dit Léa.
Voilà, alors finalement, non, parce que le film a été un succès, mais ça a généré une prise d'otage.
J'allais vous en parler, de l'attaché de presse, la femme de l'attaché de presse, ou un truc comme ça, qui a fait une prise d'otage pour pas que le film sorte.
Exactement, et ça a été assez peu connu.
Excusez-moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, pardon.
Une femme a voulu interdire la sortie de ce film. Et a pris en otage un avion.
Non, mais c'est incroyable.
Et en prenant en otage cet avion, elle a été ensuite abattue. Et ça s'est très peu su. Moi, je l'ai découvert.
Mais cette dame était qui, quoi?
C'était la femme d'un publicitaire.
Ou d'un attaché de presse. Non,
voilà.
Mais c'était un scandale. De Funès avait peur d'être taxé d'antisémite.
Exactement.
Enfin, c'était un scandale. Ça sort en pleine guerre des 6 jours. C'est un truc de fou.
12 jours après le début de la guerre du Kippour.
Non, mais de Kippour, donc 73, d'accord. Pas les 6 jours.
J'avais oublié le. La prise d'otage.
Voilà, moi j'ai appris en venant ici.
C'est bizarre que la mémoire collective n'ait pas retenu cette tension-là.
C'est vrai que Gérard Houry affirmait vouloir pacifier un petit peu, puisque déjà les conflits au Moyen-Orient étaient bien présents, et son but c'était quand même d'évoquer tout ça à travers la comédie. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que finalement toutes ces comédies sur les religions, comme la vôtre, c'est le reflet de ce qui nous habite, nous, dans la société, dont on peut pas vraiment parler, parce qu'on vit dans un état laïque et que c'est compliqué souvent, parce qu'on est très souvent dans la confrontation. Et pour une fois, quand un cinéaste se met à parler de religion et qu'il nous fait rire avec ça, eh ben, on désamorce, on se détend, on rit ensemble.
Danielle Thompson a souvent raconté d'abord qu'elle aurait du mal à refaire Rabbi Jacob aujourd'hui, mais qu'à l'époque, elle avait demandé au grand rabbin d'être le consultant, entre guillemets, du film. Il faut une caution pour aller sur ce genre de terrain.
Alors, je ne sais pas s'il faut une caution, mais je pense qu'il faut quand même bien connaître les rites. Je pense par exemple que Gad Elmaleh, qui a fait Reste un peu l'année dernière ou l'année d'avant, qui connaît effectivement très bien tous les codes de la religion juive, mais aussi qui connaît très bien les catholiques, a réussi aussi son film.
Je crois qu'il est devenu catholique.
Je rassure toute la communauté.
Il fait ce qu'il veut.
Mais ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il a su, comme il connaît extrêmement bien sa propre religion, évidemment, il a su aller vers les nœuds à désamorcer. Il a su aller vers la question de la conversion, qui est quand même assez tabou, dans toutes les religions d'ailleurs, et vers la question de sa fascination pour la Vierge Marie. Dans le film, par exemple, sa maman découvre une Vierge Marie dans la valise de son fils, de Gad, et pour toucher la Vierge, elle enfile des gants. Des gants de cuisine, en fait, parce qu'il y a vraiment cette...
Par respect.
Voilà.
Non, parce que, genre, il ne faut pas toucher.
Voilà, il ne faut pas toucher.
Ah, c'est au contraire, danger, quoi.
Les Juifs ont peur de rentrer dans les églises.
Voilà.
Ils ont peur, c'est marrant.
Et c'est parce qu'un cinéaste connaît bien ses tabous qu'il arrive aussi à les désamorcer et à nous détendre. Et vous disiez tout à l'heure que c'est important qu'on voit ces films en salle. C'est ça, moi, que je voulais vous dire. C'est que le premier, Qu'est-ce que j'ai vu au bon Dieu, je l'ai vu en salle. Et je pense
que
c'est une expérience. Qu'est-ce que. Voilà.
Qu'est-ce que. Révélateur. Une vision. Elle a une vision.
Je l'ai vu en salle et je pense que c'est très important de se retrouver assis à côté de gens dont on ne connaît pas les convictions, de voir ces films en salle, de rire ensemble, parce que ça nous relie, en fait.
Exactement.
Alors qu'est-ce qui change sur le sujet de la religion? Parce que l'humour, quand on entend, on ne peut plus rire de rien. Si on fait une vanne sur les gros, il faut derrière dire « j'ai été moi-même un gros ». Si on fait une vanne sur les arabes, il faut dire « mais je vous rappelle que je suis né à tel endroit ». Comme s'il fallait un alibi, une excuse, la carte qui permettent de faire des vannes, même sur des choses aussi simples et pas forcément segmentantes que sur la calvitie. On est obligé de dire moi-même je perds mes cheveux et bing, je peux aller faire une vanne. Ça devient fatigant.
Surtout
la calvitie.
Avec les cheveux.
Systématiquement s'excuser. Est-ce que sur la religion, là aussi, pour faire un film qui se moque d'une religion, il faut incarner, porter cette religion en disant je peux me permettre de faire des vannes parce que moi-même, je suis de cette religion.
Moi, je crois pas. Je crois que si on connaît déjà, c'est plutôt bien. Après, j'ai fait un petit sondage à la rédaction, dans la rédaction dans laquelle je travaille. Je suis allée voir les journalistes et je leur ai demandé quelles seraient les limites. Et en fait, ça m'a rassurée parce qu'on est quand même dans une rédaction assez libérale. Tout le monde m'a dit, mais il n'y a pas de limite, en fait. On vit dans un état pluraliste, un état libéral. Un artiste, finalement, il a le droit de dire tout ce qu'il
non,
veut.
Non, la limite, il faut que ça soit drôle et que ça blesse personne.
Voilà. Il a même le droit de blasphémer. C'est ce qu'avaient fait les Monty Python, les Monty Python dans La vie de Brian.
Monty Python, c'est un cocktail. Je...
Ça, ça s'est passé comment, le petit déjeuner ça le Monty Python, vous connaissez bien Leïla, c'est ça. C'est déjeuner ensemble.
On l'a pas dit, mais... et en fait, je pense que la seule chose importante, c'est que le croyant qui se sent blessé en face, qui se sent atteint, qui se sent heurté, et la possibilité de répondre à l'artiste. Mais en fait, un artiste, pourquoi lui interdire de s'exprimer? Voilà, mais cette condition, elle est importante, et c'est ce qui est ressorti, moi, chez mes confrères. Voilà,
vous êtes chef de rubrique cinéma au Pèlerin. Quel est votre top 3 des comédies?
Alors, là aussi, je suis allée faire un petit sondage auprès de mes confrères,
non,
mais j'ai
vôtre.
Un peu mis de moi aussi.
Bah, évidemment.
Tu mets une petite musique angoisse, alors...
accompagnée. Ok, d'accord.
Allez, le top 3 des comédies.
De tous les temps, c'est-à-dire les comédies de tous les temps. Ah,
voilà.
C'est chaud.
Alors, on a beaucoup aimé Reste un peu de Gad Elmaleh, parce qu'on a trouvé ça
dans
très
le
fort.
Top 3 des comédies de toutes, c'est super.
Ouais, comédie délicieusement spirituelle, on l'avait appelée.
D'accord.
On a beaucoup aimé Bruce Tout-Puissant.
Ah oui, américain. Bruce Almighty pour les anglophones.
Et si un simple humain se substituait à Dieu, est-ce qu'il ferait mieux que lui? Bon.
Ok, non, c'est votre top 3 des comédies religieuses.
Que je comprenne.
C'est trop dur.
D'accord.
Voilà.
Et le number one
on était pour les comédies religieuses sur Reste un peu. Vraiment.
Ah d'accord, number one.
Ouais.
Et donc, c'est quoi le numéro 3?
Coexister, on avait bien aimé.
Oui, c'était drôle, Coexister.
C'est drôle.
Oui, oui.
D'accord, ok.
C'est subtil.
Et hors comédie, quelle serait...
Alors, hors comédie, il y avait le remake de Léon Morin Prêtre, La Confession, avec Romain Duris, qu'on avait beaucoup aimé, de Nicolas Boukrieff, qui était... La Prière, de Cédric Kahn. Et Paternel, de Ronan Tranchot. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, dont on en a beaucoup parlé dans Le Pèlerin, parce que ça ouvre un dialogue, en fait, sur la question exactement des prêtres pères.
Merci beaucoup, Catherine Escrive, d'être venue. Merci. Je rappelle, chef de rubrique cinéma au Pèlerin, et la religion véritable, donc, sujet, vous le prouvez, de comédie, mais pas uniquement de comédie au cinéma. Passer de la religion à une vision, mais quel enchaînement. Voici Daniel Morin.
Et une vision, alors. Absolument, Nagui, vous le savez, j'ai pour mon prochain un amour plutôt modéré. En vrai, je déteste les gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y en a qui n'aiment pas les choux de Bruxelles, moi c'est les gens. J'ai le droit. D'ailleurs, c'est ce qui nous a rapprochés, Tanguy et moi. Au départ, on n'aurait jamais dû tomber amoureux. Et puis, un soir, on était une soirée Prozac chez Lisa Delmoitier. Oh Morin, c'est moi que tu regardes? Mais jamais de la vie, Pastureau, t'es bien trop moche, mon pote. Ouais, t'as vu ta gueule? Va te faire retirer le cul pour pas merde. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez excitant. Connard. Fumier. Humoriste. Socialiste. La vache, je te kiffe, tu pues de la gueule. J'ai déjà couché avec des cons, mais là, c'est Noël. Bref, on s'est détestés, mais ça nous a unis pour la vie, je crois. Avec Tanguy, on a une relation vive, mais épanouissante. On est dans l'injure, dans la provocation, mais ça comble notre aversion pour l'autre. Tout en maintenant le dialogue, elle est là, mes visions, mon Nagui. Claro que si, meine kleine Kiki. Soyons orduriers, détestons les gens, soyons mal élevés, soyons râleurs. Ça mettra du piment dans nos vies qui, on peut le dire, sont plutôt ternes. Hein. On est poli toute la journée, mais c'est par réflexe, on n'en pense pas un mot. Oh, la boulangère, donne-moi une de tes baguettes merdiques, là. Elle est trop bonne pour toi, ma baguette, pauvre con. Donne, crevure, j'ai pas que ça à foutre. Ça fait 1,30€. Voleuse, bonne journée, toi-même. Voilà, j'ai ma baguette. Elle a fait sa vente. On s'est lâché. Ça nous a fait un bien fou. Vous voyez, Nagui, c'est violent. Mais au final, ça défoule, ça fouette le sang et tout le monde est content. Voilà, c'est ma vision pour une vie plus équilibrée. Enfin, équilibrée, je sais pas si c'est le mot juste. Alors, bien sûr, je peux me tromper.
Non, pas toi.
C'est pas le toi.
Mais ça m'étonnerait.
Merci, Daniel Morin.
Un film de merde va sortir donc au cinéma.
Je sais pas si c'est une super promo. Finalement, ouais.
Je sais pas, j'essaie d'écouter mon père.
Bah, bien sûr.
Bien.
Mais c'est très bien.
C'est votre
grosse bouse.
Neuilly-Poissy au cinéma ce 8 mai prochain. Tanguy, de quoi vas-tu parler dans la prochaine
demi-heure? Je parle de massage parce qu'on est tellement entendu. Massage royal, massage tantrique, massage chinois. Un salon vient de s'ouvrir à côté de la maison de la radio. J'ai eu le carton d'invitation.
Oh, file.
Et donc la saison des délicieuses fraises françaises. Savourez dès maintenant nos gariguettes, sifflerettes, charlottes et autres fraises rondes. Les fraises de France sont uniques en goût. Laissez-vous aller. Spot financé par les producteurs de l'AOP nationale Fraises Framboises de France.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
France Inter lance l'école des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2, alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'école des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre Odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe!
Avec la MAE, le spécialiste.